affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. L'émission de ce jour nous conduira à la découverte d'un art souvent méconnu et pourtant omniprésent dans notre société. Un art né en même temps que l'imprimerie, au milieu du XVe siècle, mais dont les techniques, depuis le plomb jusqu'à la révolution numérique, n'ont cessé d'évoluer. Un art, enfin, qui bouleversa profondément l'histoire de la pensée en Occident, en généralisant l'accès au savoir, j'ai nommé la typographie. Dans la rue, à travers les affiches, les enseignes, les panneaux, logos, sur les écrans de télévision ou d'ordinateur, dans les livres bien sûr, dont elle fait à elle seule de véritables œuvres d'art, mais aussi parfois dans la peinture, la typographie est un vecteur essentiel, incontournable de communication visuelle et intellectuelle. S'immisçant aussi bien dans le domaine du sensible que dans celui de l'esprit, elle frappe durablement notre imaginaire. À notre insu parfois, il faut bien le dire, ou en pleine conscience, selon que nous soyons néophytes, spécialistes ou amateurs avertis. Pour nous aider à pénétrer dans cet univers fascinant et chargé d'histoire, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Yves Millecan. Yves Millecan, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes bien sûr ici chez vous, puisque vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts, élu au fauteuil de Jean Desvannes le 27 juin 2001. Yves Millecan, vous êtes vous-même un grand représentant de la peinture abstraite contemporaine. Vous avez aussi consacré toute une partie de votre carrière artistique à la tapisserie. Vous avez d'ailleurs réalisé avec Jean Lursa un programme commun pour la nouvelle faculté des sciences de Rennes en 1965. Votre foisonnante créativité s'est élargie au décor sur porcelaine, notamment pour la manufacture de Sèvres. Vous aimez aussi la sculpture et particulièrement le travail de l'acier. Et pour ce qui est de la typographie, y avez-vous eu recours dans votre œuvre ?
Dans ma peinture, non. Mais par contre, j'ai toujours été passionné par la typographie. Et en particulier, j'en ai usé en réalisant les médailles.
Et donc, avez-vous le sentiment d'être plutôt un amateur éclairé en ce qui concerne la typographie, plutôt qu'un typographe ?
Oui, un amateur éclairé, oui, jusqu'à un certain point. Un passionné,
passionné.
Le mot serait plus juste.
D'accord. C'est donc au titre de passionné, d'amoureux, d'artiste sensible à cette forme de création, finalement, que vous avez contribué à la dernière lettre de l'Académie des Beaux-Arts, consacrée à la typographie ou à l'art de la lettre. Donc j'invite bien sûr nos auditeurs à la consulter sur le site de l'Académie, car elle est téléchargeable en ligne. Je voulais vous demander, à quand remonte votre première rencontre avec l'art typographique ? Finalement, quand y avez-vous été sensibilisé pour la première fois ?
Bien, je l'ai été dans les années 40, à la fin des années 40, assez exactement, enfin... vers 1948-49, quand un professeur de l'école professionnelle d'Armentières qui m'enseignait m'a demandé de réaliser une affiche pour la foire de Paris. Et évidemment, j'étais totalement... Je ne connaissais rien à la typographie et je me suis basé sur ce que l'on appelait à l'époque les réclames qui se trouvaient dans des imprimés, comme dans des revues, comme l'Illustration par exemple. Et je me suis basé là-dessus pour choisir la typographie de mon affiche.
Alors justement, vous nous parlez d'affiches dans les années 30, des affiches cultes ou des réclames peintes fleurissent sur les murs. Bon, à l'époque, vous êtes un enfant. Je pense notamment aux affiches de Dubeau, Dubon, Dubonnet, qui sont restées un petit peu cultes et qu'avait dessiné le graphiste Cassandre. L'enfant que vous étiez alors, était-il déjà sensible à cette forme de langage artistique ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'à l'époque... il n'y avait pas autant de publicité visuelle qu'il y en a maintenant au travers de la télévision, du cinéma, etc. Les grandes publicités étaient d'abord les murs. les murs peints. Et je me souviens, j'avais été très frappé par Du beau, du bon, du bonnet, peint sur les murs, et cette même publicité que l'on retrouvait ensuite dans les réclames pour, et dans les revues. Et par la suite, j'ai eu l'occasion, plus tard, de découvrir les affiches qu'avait réalisées Cassandre, et en particulier deux affiches m'avaient frappé, l'Étoile du Nord pour les trains et celle évidemment du paquebot Normandie.
Vous avez consacré justement dans la lettre de l'Académie des Beaux-Arts un article à cet Adolphe Mouron, dit Cassandre. Pouvez-vous évoquer pour nous son œuvre et son importance à l'époque dans l'évolution de la typographie et des arts graphiques? Je crois qu'il est à l'origine de beaucoup de polices, notamment.
Oui, bien, je viens de vous le dire, Cassandre était surtout connu, et je pense pour la plupart du public, par ses affiches qui étaient vraiment très belles et très personnelles. C'était le grand maître de l'affiche de l'époque. Mais par contre, peu de gens, et c'est normal, savent qu'il a aussi créé des polices de caractère, dont une, moi, qui m'enchante énormément, c'est le Bifur, qui a été créé en 1927, qui est une police de caractère très, très typique, très personnelle et qui ne servait, qui ne pouvait pas, qu'il n'avait pas créé pour écrire des textes, mais simplement quelques mots frappants. C'est une police de caractère, les caractères sont très puissants, très forts.
On a dit que c'était un peu la police symbole des années 30.
Oui, il n'avait pas cherché, il ne le savait pas lui-même, mais paradoxalement, c'est devenu une écriture typographique typique des années 30. Quand on veut symboliser les arts déco, l'époque des arts déco, de l'art déco. L'époque de l'art déco, je trouve que il n'y a rien de tel que le Bifur. Ceci étant, il a créé plusieurs polices de caractère, il a créé un tas de choses. Il nous faudrait une demi-journée pour l'évoquer.
Mais certaines, quand même, vous ont marqué plus que d'autres, certaines
oui,
des polices.
Les deux principales sont l'acier,
oui,
qu'il a créé pour une revue qui s'appelait L'Otua, qui était une revue métallurgique, et qui n'a pas eu un succès phénoménal, mais qui était créé spécialement pour cette revue. Et l'autre, qui a servi entre autres, qui est une très belle police, très employée en bibliophilie, mais qui a aussi servi, par exemple, pour écrire les citations de Paul Valéry sur le palais du Trocadéro.
Alors, je crois qu'il y a 4 inscriptions. Est-ce que vous pouvez nous en lire une?
Ah, je peux vous en lire une, oui, mais il vaut mieux aller la voir sur place. Enfin, je vous la lis. Tout homme crée sans le savoir, comme il respire. Mais l'artiste se sent créé. Son acte engage tout son être, sa peine bien-aimée le fortifie.
Et donc tout cela inscrit en typo peigno créé par
et
Cassandre.
Et c'est écrit en peigno, des lettres en relief, en métal doré, c'est très beau. Elles conviennent parfaitement au style du palais du Trocadéro.
Exactement, oui. Alors, qu'en passez-vous, Yves Milquant, je dirais, de l'imprégnation, cette imprégnation visuelle sur les murs, les nouveaux slogans publicitaires, durant votre enfance et votre adolescence à Armentières? Qu'en passez-vous de cette imprégnation à la prise de conscience véritable de l'art typographique, de son importance, en fait, vous dont la vocation était peut-être la peinture au départ?
Quand j'ai préparé les arts déco dans un atelier préparatoire, je me souviens que nous avions eu comme pinsum, parce qu'à l'époque c'était un pinsum, de réaliser quelques planches entières, format raisin, c'est-à-dire 50-65, si mes souvenirs sont bons, de les remplir de caractères peints à la gouache. À l'époque, les moyens étaient très limités. C'était le seul moyen de peindre des lettres, ou à l'encre, peu importe. Et donc ça a été un premier contact avec la typographie. Je ne peux pas dire que ça m'enthousiasmait, mais ça ne me déplaisait pas non plus. Il y avait une sorte de précision à apporter qui ne me déplaisait pas.
Yves Milquan, vous suivez des ateliers préparatoires aux Arts Déco, mais il me semble aussi que vous aviez un goût assez prononcé pour la typographie pour décider de vous inscrire au cours du soir de l'école Estienne.
C'est-à-dire que j'ai d'abord passé le concours des Arts Déco, bon, j'ai été reçu, et nous avions beaucoup de travail, et je dois dire que je travaillais beaucoup. J'ai toujours travaillé beaucoup et je rendais plutôt deux projets qu'un. Mais malgré tout, j'avais été attiré par la typographie, oui, au point que je me suis inscrit aussi au cours du soir de l'école Estienne. Et là-bas, nous avions comme professeur Jean Garcia, que on nous a présenté, Monsieur Jean Garcia, professeur, etc. Je ne le connaissais pas, évidemment. Et c'est lui qui, petit à petit, nous a donné le goût, nous a fait comprendre ce qu'était la typographie et nous a montré la beauté de la typographie, l'utilité, enfin tous les spectres que peut représenter la typographie. Et pendant cette année, parce que je n'ai suivi ces cours qu'une seule année, car c'était trop de travail, je ne pouvais pas cumuler à la fois le travail des arts décoratifs et de l'école Estienne, c'était trop, je risquais de rater les deux. Mais en tout cas, donc, pendant cette année d'Estienne, il a fait venir Adrian Frutiger, qui était un professeur, pas un professeur, un graphiste renommé, qui d'ailleurs nous a tout de suite, entre autres, parlé de la police de caractère univers qu'il commençait à travailler, une police de caractère extraordinaire qui par la suite sera l'une des plus répandues dans le monde, avec, je pense, entre 20 ou 30 ou peut-être même plus, je ne sais pas, déclinaisons possibles. C'est un caractère très très important dans l'histoire de la typographie.
Est-ce la police qui sera utilisée plus tard pour l'aéroport de Roissy?
Non, pas exactement. Non.
Qui est aussi,
pour l'aéroport de Poissy, il créera un caractère spécial pour la signalétique. Et cette police s'appellera par la suite le Frutiger.
Alors, lors des mêmes cours du soir à l'école Estienne, vous nous avez dit avoir aussi rencontré Jean Garcia. Et pourquoi Jean Garcia est-il une figure si importante, pour ne pas dire historique, de la typographie?
Ah oui, alors, outre le fait qu'il nous ait fait aimer et comprendre et juger de l'importance de la typographie, Jean Garcia était un homme assez extraordinaire dans tous les domaines. Ça, je ne l'ai découvert qu'après. Et je me souviens très bien, évidemment, il nous avait parlé à ce moment-là, ça devait être en 51, l'année scolaire 51-52, de la création toute récente des rencontres internationales de Lure qu'il avait créées avec Giono et Maximilien Vox, qui était le grand ténor de la typographie de l'époque, entre autres. Et également est venu se joindre à eux Rank, qui était le directeur de l'école Estienne. Et donc, il nous a dit qu'il créait là chaque année, il y aurait une session qui réunirait tous les amoureux de la typographie, tous les graphistes, tous ceux qui s'y intéressaient. Et donc, j'ai traîné ça pendant très longtemps.
Vous y avez participé vous-même à l'époque, aux rencontres de Lure?
Eh bien non, pas dans ces années 50, mais ça me travaillait. Je ne l'avais jamais Il était tellement convaincant, tellement, il avait tellement réussi à nous charmer, enfin à nous enchanter par ces rencontres qui commençaient tout simplement, que très longtemps je me suis dit je dois aller à Lure, il faut que j'aille à Lure d'année en année. Et je n'y suis jamais allé jusqu'en 1990. Et non, en 91 exactement. Mais en 90, j'y ai envoyé ma fille, qui, elle, est partie, est allée voir de quoi il s'agissait, et est revenue enchantée, enthousiasmée. Et à tel point que l'année suivante, elle m'y a entraîné. Je dois dire que ça ne m'a pas trop coûté, puisque ça me déculpabilisait de 40 ans de report. Et j'ai compris que ce qu'étaient les rencontres de Lure, passionnantes, intéressantes et vraiment enthousiasmantes.
Alors, entre-temps, dans cet intervalle, comment avez-vous continué à nourrir cette passion pour la typographie ? Vous n'alliez pas aux rencontres de Lure, en tout cas pas tout de suite, mais vous avez continué à vous intéresser pour cette discipline et même à la pratiquer, je crois.
Oui, alors il y a les deux choses. D'une part, j'aimais beaucoup, je ne sais pas pourquoi, ça s'est fait naturellement, comme on peut aimer, sans l'avoir voulu, on peut aimer la musique ou une autre forme d'art ou la littérature. Très vite, j'ai été sensible à la qualité des lettres, à la qualité, au fond, on parlait pas tellement de typographie à l'époque. Enfin, si, ça venait petit à petit, mais... Et donc, j'aimais bien regarder les beaux livres, les belles impressions, etc., des affiches qui étaient bien construites, bien composées, avec de beaux caractères. Donc, Cassandre, d'ailleurs, c'est ce qui me faisait aimer les affiches de Cassandre, qui étaient toujours très bien architecturées, composées. C'était une merveille. Et alors ça, c'était le côté passion. Mais d'autre part, j'ai été amené à pratiquer un peu la typographie. D'une part, lorsqu'on présente des projets à des architectes, il m'est arrivé à des architectes ou à des commissions d'achat de toutes sortes d'ordres, que ce soit en particulier pour les tapisseries, parce qu'à l'époque je faisais beaucoup de projets de tapisseries, et pour les présenter, parfois il fallait mettre le nom le titre de la tapisserie ou le nom, la raison sociale du client éventuel, etc. Donc on employait la typographie. Et d'ailleurs, à ce moment-là, petit à petit est intervenu ce que l'on a appelé des caractères de transfert, qui étaient fabriqués par deux marques essentielles qui s'appelaient Lettre A7 et Mecanorma. Et ce qui a beaucoup facilité la vie. Sinon, il fallait les dessiner à la main. Et donc j'ai pratiqué aussi alors la typographie, parce que j'ai créé des médailles, et sur ces médailles, les trois quarts du temps, il y avait une petite inscription qui était indispensable. Et d'ailleurs, il y a une chose très curieuse, j'ai eu une fois en 81, j'ai eu la commande d'une médaille de la part de la Société des autoroutes du Sud pour fêter leur 1000e kilomètre. Et or, il se trouve... Alors, on m'a laissé carte blanche pour la création. J'ai fait de multiples projets, comme j'en fais toujours chaque fois que il y a une commande au bout, etc. Je fais ces projets à la fois pour moi, pour le plaisir, parce que je cherche et je ne réussis pas tous les coups, etc. Et j'aime bien la recherche, j'aime bien cette séquence de recherche. Et il se trouve donc que le client, les autoroutes du sud de la France m'avait laissé carte blanche totalement, avec une seule condition, que j'introduise dans ma médaille leur logo. Et voilà que j'apprends que leur logo avait été dessiné par Frutiger. Alors je veux dire que ça m'a fait chaud au cœur d'introduire un logo de quelqu'un qui avait été mon professeur 30 ans avant. Voilà, ça c'est une anecdote qui n'a pas d'intérêt, mais enfin...
C'est... Alors, dans les années 50, suiviez-vous la publication des caractères Noël ? Est-ce que vous attendiez patiemment la publication de ces caractères Noël ou pas ?
Oui, j'ai découvert, à vrai dire, en 54, j'ai découvert le premier numéro. Ça n'était, en réalité, je pense que c'était le second numéro. Mais pour moi, c'était la première fois que je découvrais ce... Je ne peux pas dire cette revue, c'était un véritable livre qui faisait au moins 3 ou 4 centimètres d'épaisseur et qui était un véritable florilège de ce que les imprimeurs pouvaient faire de mieux. Et cette collection de caractères de Noël était dirigée par Maximilien Vaux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le créateur des rencontres de Lure, et elle avait été créée par Vaux dans les années 1953. Et ces numéros paraîtront jusqu'en 1965. Ils étaient tirés à quelques centaines d'exemplaires à chaque fin d'année. Les numéros spéciaux de caractère Noël sont considérés comme des galas imprimés. De ce que les professions de l'édition, du graphisme, de la typographie, de la gravure et de la photo faisaient de mieux dans les années 50 et 60. C'était vraiment extraordinaire, de qualité. Chaque page des numéros de caractères de Noël sont des compositions exceptionnelles, créées spécifiquement pour l'occasion. Et à travers caractère Noël, les auteurs souhaitaient valoriser ce qu'ils considéraient comme le bon goût français, la recherche du beau, la curiosité d'esprit et le goût magnifique de la chose bien faite.
De nombreux artistes peintres, d'ailleurs, ont participé, notamment pour les couvertures, à cette publication.
Oui, il y a des artistes, je me souviens en particulier d'un numéro, je ne sais plus lequel, dont la couverture avait été faite par le peintre Mathieu, qui est un ancien confrère de notre académie. Non, c'était une réalisation magnifique.
Alors, je voulais revenir un petit peu aux rencontres de Lure, hein, qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Et elles ont ainsi témoigné pendant 50 ans de l'évolution des techniques en matière de typographie, parce qu'on peut dire qu'il y a eu beaucoup de révolutions quand même. On est passé du plomb à la photocomposition, puis au numérique. Et pourtant, la technique au plomb perdure-t-elle aujourd'hui ?
Oui, elle perdure à très petite échelle. Je ne sais pas, je n'ose pas donner de chiffres, mais je pense qu'il doit rester entre 5 ou 10 imprimeurs au plomb, véritablement, comme la manière ancienne, quoi, je pense actuellement. Je ne suis pas un grand spécialiste de la question, mais... Je pense que c'est de cet ordre-là.
Vous connaissez vous-même Christian Papu, qui a écrit dans la lettre de l'Académie des Beaux-Arts à ce sujet et qui évoque son parcours autour de la typographie. Et il parle de la dimension artistique, notamment de la technique au plomb. C'est comme si c'était un petit peu aussi pour ça que lui l'utilisait encore aujourd'hui.
J'aurais du mal. J'ai croisé Christian Papu plus que je ne le connais. Mais c'est un très grand monsieur de la typographie, en particulier il était à l'Imprimerie nationale. Je pense qu'il gravait les poinçons et il en est le gardien moral, je pense, avec une passion incomparable. Non, c'est un très grand monsieur.
Parce que ces poissons font totalement partie de notre patrimoine, sont d'une richesse exceptionnelle.
Ah oui, ils sont classés.
Le grand public ne mesure pas toujours la richesse de ces collections, en fait. Oui.
Non, malheureusement, ils ont été déménagés de l'Imprimerie nationale qui se trouvait dans le 15e... c'est rue Gutenberg, je crois, d'ailleurs. Et maintenant, je pense qu'ils doivent être adoués dans des caisses, à moins qu'on les ait sortis dans... Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait un musée de l'imprimerie ni des poinçons. Mais ils sont préservés, mais en tout cas, on ne peut pas les voir. Et...
Alors, après les années 50, vous avez fait aussi d'autres rencontres importantes dans le domaine de la typographie. Et vous avez enseigné, je crois, dans une école de communication visuelle. Vous étiez professeur de quoi dans cette école ?
J'étais professeur de créativité graphique, c'est-à-dire non pas de la typographie, mais de tout ce qui est trait, dessin, etc. Mais surtout de créativité. J'étais censé montrer à chaque élève qu'il était capable de créer, quelles que soient ses dispositions. C'était passionnant, d'ailleurs. J'attendais toujours le résultat de la fin des projets. Lorsqu'on les affichait, c'était extraordinaire de voir, quand j'avais 30 ou 40 élèves, de voir 30 ou 40 projets très différents. Les uns remarquables, d'autres moins bien, mais toujours... il y avait toujours de la créativité dans chacun d'entre eux. Et j'enseignais également la couleur. C'était une école qui dépendait de l'école de communication visuelle qui dépendait de l'Union centrale des arts décoratifs.
Et là-bas, vous avez rencontré d'autres grands noms de la typographie parmi le corps enseignant ?
Oui, j'en ai connu quelques-uns, dont le principal a été Gérard Blanchard, qui est lui aussi une véritable, qui était une encyclopédie de l'histoire de la typographie. Vraiment, il était incollable. C'était un type extrêmement intelligent, simple, très agréable, modeste. Et il était le premier à avoir préparé une thèse sur l'histoire de la typographie. Et il avait pris comme
directeur de thèse.
Directeur de thèse, voilà, c'est ça, exactement, merci. Il avait pris Roland Barthes. Et malheureusement, Roland Barthes a été accidenté, je crois, si mes souvenirs sont bons, au boulevard Saint-Germain. Il a été, je pense, qu'il a été renversé par une voiture la veille ou 48 heures avant le passage de la thèse, la présentation de la thèse.
Qui portait bien sûr sur la typographie.
La typographie. Et Gérard Blanchard enseignait à l'université de Besançon.
Et il participait lui-même aux rencontres de l'URG.
Et alors, il a été l'un des... Très vite, il a participé aux rencontres de l'URG et il en est devenu l'un des principaux dirigeants après la disparition de Maximilien Vox, Giono et Garcia. Garcia est mort plus tardivement, est décédé plus tardivement, mais non... Gérard Blanchard était l'un des piliers extraordinaires des rencontres de Lyon. Oui.
Alors, la typographie nourrit aussi des liens profonds avec la littérature, au point de devenir elle-même un moyen d'expression littéraire, finalement. Et que vous inspirent les calligrammes d'Apollinaire ?
Alors, ça, c'est une question délicate. Je suis séduit par les calligrammes je suis séduit sur à la fois par les figures que ces calligrammes représentent, mais aussi par leur construction qui est parfois maladroite, mais qui est toujours émouvante et drôle, savante, curieuse. Non, c'est, je trouve ça passionnant et drôle, oui.
Et Apollinaire a-t-il eu des devanciers dans ce jeu, un petit peu comme ça, avec les lettres ?
Sur l'organisation de figures à base de lettres et de typographie, oui, il a eu, non pas dans le sens des calligrammes qui ont un côté assez humoristique chez Apollinaire, mais par contre, il y a dans certains beaux livres des XVIIe et XVIIIe siècles, des figures qui sont faites parfois en plein milieu du livre, parfois à la fin, des figures composées, vraiment organisées scrupuleusement à l'aide de la typographie, avec des pleins, des déliés, des formes. Ah non, c'est magnifique. Certains typographes s'amusaient, ça devait leur prendre du temps et ça nécessitait une certaine science. Non, je suis plein d'admiration pour ces artisans, ces artistes, parce qu'au fond, ces typographes étaient de véritables artistes dans la manière de composer leurs livres.
Eh bien, après avoir parlé d'Apollinaire et donc de ses devanciers, ces remarquables artistes que vous venez d'évoquer, je voulais vous demander, de la même façon, que vous inspirait la prose du transsibérien de la petite Jeanne de France de Blaise Cendrars, illustrée par Sonia Delaunay.
C'est très difficile de vous en parler. À vrai dire, je suis d'abord émerveillé par les compositions et les couleurs de Sonia Delaunay, évidemment. Mais c'est l'ensemble de cette réalisation qui est extraordinaire, avec un grand nombre de typographies différentes soulignées par des bandes de couleurs différentes également. Et cet ouvrage qui fait 2 mètres de longueur, c'est un tour de force. Puis c'est étonnant quand même d'avoir osé composer cela en 1913, je crois.
Vous-même avez une relation particulière à Blaise Cendrars. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Ah, là, on aborde un tout autre plan. Je ne peux pas dire passionné, je suis marqué par la guerre de 14 pour de multiples raisons. Le lieu de ma naissance, qui est Armentières, qui était dans une ville frontière entre les troupes anglaises et les troupes allemandes. Mon père a lui-même été mutilé de guerre, etc. J'ai donc vécu dans ce climat. Et je dois dire que j'ai eu l'occasion de lire de Blaise Cendrars La main coupée. Et ça m'a profondément marqué, comme j'ai lu beaucoup de livres sur la guerre de 14. Et à tel point que je suis même allé faire un pèlerinage à La Grenouillère, qui est dans la Somme, à un endroit où il a vécu, où il décrit ces moments tragiques avec à la fois, vous savez qu'il était suisse, Blaise Cendrars est suisse, et c'était par amour de la France, s'était engagé dans la Légion étrangère. Et donc, il raconte ça avec une espèce d'insouciance. Ça n'est pas tragique dans la manière dont il le raconte, mais enfin, il ne le raconte pas d'une manière tragique. Il n'empêche que les choses sont...
Et la main coupée vous a touché particulièrement parce qu'elle faisait écho aussi à un épisode de votre vie, quelque chose qui vous avait beaucoup marqué, puisque c'était un petit peu une histoire qui avait été vécue aussi par votre papa, je crois.
Oui, mon père avait perdu son bras gauche. Mon père avait reçu des balles de mitrailleuse et était resté 24 heures ou 48 heures dans le No Man's Land entre les troupes allemandes et françaises. Voilà, et personne ne venait à son secours, comme de multiples, de milliers d'autres. Et finalement, il a été récupéré par les troupes allemandes qui l'ont envoyé tout de suite à Darmstadt. Je dois dire qu'il a eu beaucoup de chance parce qu'il a été amputé là-bas en Allemagne. Mais mon père a perdu son bras gauche, tandis que Blaise Cendrars a perdu son bras droit et a été dans l'obligation après de réapprendre à écrire de la main gauche, ce qui n'est pas simple. Alors voilà, oui, vous me parlez de Blaise Cendrars, c'est le côté qui m'a profondément marqué chez lui.
Alors nous parlions de littérature. Au cours du XXe siècle, des peintres particulièrement célèbres ont introduit la typographie dans leur peinture. Et lesquels vous ont le plus marqué ou le plus touché ?
Oh bien, spontanément, je vous dirais Picasso, Braque et Juan Gris. Mm-hmm. Ça, c'est évident. Dans un domaine plus secret, enfin pas plus secret, mais plus un peu plus hermétique peut-être pour le public en général, c'est Schwitters qui a souvent mêlé la typographie à ses compositions. Et alors il y en a un plus récent dont j'ai toujours aimer les choses, aimer les réalisations, autant parce qu'il cumulait deux choses, à la fois la typographie et la couleur, c'est Boetti. Boetti qui a fait des réalisations, et en particulier des broderies à base de typographie colorée. C'est toujours très beau, c'est chatoyant et... Non, voilà, en gros...
Certains pays, en dehors de la France, vous ont-ils paru particulièrement créateurs en matière typographique, et peut-être même plus que la France ?
Oui, alors là, je ne sais pas. Je n'ai pas de vue sur la typographie mondiale. Simplement, je sais, et j'ai eu la chance d'avoir pendant une quinzaine d'années une galerie qui m'exposait à Brescia en Italie. Et je dois dire que pour m'y rendre, où je passais par la Suisse, parce que j'avais aussi pas mal de contacts en Suisse, alors parfois je faisais les deux, Suisse et Italie, mais... Dès que je franchissais la frontière, que ce soit la frontière suisse ou la frontière italienne, j'étais frappé par la qualité de la typographie sur les affiches, sur la signalétique, sur les magasins, dans tous les domaines. Mais le contraste était très frappant. Vraiment, je changeais de monde dès que je franchissais la frontière. Voilà, alors oui, j'ai toujours trouvé que les Suisses et les Italiens étaient plus en avance que nous dans la qualité de la typographie, par la beauté, par la pureté, par la concision. Ah oui, ça, je ne suis pas un inconditionnel, mais non, ça m'a souvent frappé, oui.
Alors depuis plusieurs décennies, avec la généralisation du traitement de texte, nous avons tous pris l'habitude, sans être typographe pour autant, de choisir des polices de caractère. Et certaines sont très célèbres, nous ne soupçonnons pas toujours ni leur ancienneté, ni le contexte dans lequel elles ont été créées, la plupart du temps d'ailleurs par des artistes. Donc je pense notamment à la police Garamond.
Oui. Oui, bien sûr. Ben, Garamond est le premier. Enfin, il y a bien Alde également. Oui, Garamond est à la base des créateurs de typographie. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, par la suite, s'en sont inspirés.
Donc en fait, Garamond, la police Garamond a été créée au XVIe siècle.
Au XVIe siècle, oui.
Sous l'égide de François Ier.
Oui.
Et puis, elle est tombée en désuétude avant d'être redécouverte au début du XXe siècle, comme vous nous l'indiquiez, et elle a inspiré beaucoup, beaucoup de créateurs.
Ça. Oui, mais je pense, enfin, je ne suis pas... On aurait dû préciser au début de cet entretien que je ne suis pas un typographe de profession. Hein. Nous parlons de typographie, j'en parle par passion et par amour, mais je ne suis pas une référence... dans ce domaine.
Alors, vous qui êtes un amoureux de la typographie, justement, quelles sont vos polices préférées et pourquoi ?
Ah, pourquoi ? Oui, j'ai trois polices, mais vous savez, j'ai trois polices préférées. L'Avant-Garde, l'Eurostyle, qui est, si mes souvenirs sont bons, est un dérivé de la Micrograma, mais je n'ose pas trop dire de bêtises. Et je vous ai dit le Futura. Voilà, ce sont mes trois polices. Je trouve qu'elles correspondent à mon idéal esthétique, que ce soit... elles font un peu partie de ma peinture indirectement. Je veux dire que j'apporte dans ma peinture autant de précision, dans les proportions. Enfin, je m'efforce, hein. Je n'ai pas à vanter les qualités de ma peinture. Mais je trouve qu'il y a un parallèle entre ces polices de caractère et mon travail de peintre.
Donc, vous aimez aussi particulièrement le Futura. Quelle est la particularité de cette police, ce caractère, notamment par rapport aux circonstances de sa création ? Par qui a-t-elle été créée ?
Elle a été créée par Paul Reiner, qui était lui-même professeur ou proche du Bauhaus. D'ailleurs, en parlant du Bauhaus, je repense à Cassandre. Le Bauhaus préconisait l'emploi des bas de casse, c'est-à-dire des minuscules. Alors que Cassandre prônait l'utilisation uniquement de capital. Mais à la fin, avec le Peignot, Cassandre est revenu au mélange des deux. Mais voilà, oui, alors pour en revenir au Futura, oui, je trouve que c'est un caractère magnifique, très beau, très épuré, très, tout à fait dans l'esprit du Bauhaus. Oui, du Bauhaus.
Donc, comme nous l'indiquions en début d'émission, vous avez vous-même bien connu Jean Lursa, qui utilisait la typographie dans ses tapisseries, où il aimait introduire des poèmes. Et vous avez connu aussi Christian Delorme, qui s'est passionné pour cet aspect de l'œuvre de Lursa et qui a légué ses archives à la Cité de la Tapisserie d'Aubusson.
Oui, alors d'abord Christian Delorme, eh bien voilà l'exemple d'un graphiste que j'ai connu, que j'ai eu la chance de connaître aux rencontres de Lure. Et nous sommes restés très amis le plus longtemps possible. D'ailleurs, il était venu à mon installation sous la coupole. Et il m'avait fait part, il savait que je m'étais beaucoup intéressé à la tapisserie, que j'avais pratiqué, j'avais créé des cartons de tapisserie, que je connaissais Lursa, j'avais connu Lursa. Et il m'avait dit qu'il avait fait des études sur la typographie sur sa typographie. Et à tel point qu'à un moment donné, sentant sa fin venir, il m'a proposé de léguer ses recherches à un musée, et il se trouvait que j'étais en rapport avec la conservatrice du musée d'Aubusson, et donc c'est par mon intermédiaire que ce transfert s'est fait. Mais il a fait, oui, il a bien étudié la question, et donc le musée d'Aubusson est hérité de toutes ses recherches, de je ne sais combien de diapositives. Il avait pris énormément de photos. Il allait à la galerie La Demeure, où chaque fois qu'il avait l'occasion de voir une exposition où se trouvaient des tapisseries d'Ursa, il prenait des photos. C'est un travail très, très sérieux qui malheureusement n'a pas abouti, à part un article dans une revue que je pourrais retrouver, mais... Et alors, oui, alors, pour en revenir à Lursa, oui, Lursa a beaucoup intégré des poèmes, en tout cas dans une certaine période de sa vie de créateur. Et c'est pour ces poèmes, il l'a créé, il l'a utilisé... Je ne sais quelle écriture dont il s'était inspiré au départ, mais petit à petit, il a créé ses propres caractères, en capital et en minuscule, et aussi en calligraphie, moins en calligraphie qu'en capital. Et alors là, Delorme a eu raison d'étudier ça, ça l'intriguait, parce que cette création de caractère est à la fois... forte, puissante, mais aussi maladroite, et il commettait parfois des je parle de Lursa, Lursa commettait parfois des des choses tout à fait imprévisibles et tout à fait inadéquates. Mais ça, il faut vraiment... Enfin, je ne me considère pas comme un spécialiste, mais il y a des choses qui m'ont frappé. En particulier, j'ai été photographié l'été dernier justement des détails de ces caractères. Quand, par exemple, vous faites un relief, quand vous voulez, vous voulez montrer, dessiner une lettre en relief, en général, le côté relief se met toujours à droite. Et c'est ce que fait l'URSA en général. Et puis, brusquement, on ne sait pour quelle raison, pour une question de couleur, pour une question de place, ça ne le dérange pas de mettre l'épaisseur de la lettre à gauche. C'est d'une incohérence. Ce qu'un graphiste, n'importe quel, même mauvais graphiste, ne commettrait pas.
C'est la fantaisie au cœur de la rigueur.
Voilà, c'est une fantaisie. Alors, on ne sait pas très bien. Ça l'a rangé. Mais c'est ce qui fait le charme de la typographie d'URSA.
Alors, vous-même, vous n'avez pas utilisé la typographie, malgré votre passion, dans votre peinture, ni dans vos cartons de tapisserie, mais vous avez été plusieurs fois sollicité pour la création de logos. Et pouvez-vous nous indiquer lesquels ?
Oh, non, j'ai été sollicité... vous savez, quand on dessine, on est très sollicité. J'ai été sollicité... pour dessiner un tas de choses. Les amis sont toujours là pour vous demander. J'ai des amis qui m'ont demandé de leur dessiner des chenets. J'ai des amis qui m'ont demandé de leur dessiner, transformer une grange en résidence secondaire. Il y a toutes sortes de choses, vous savez. Et alors, j'ai des amis qui m'ont demandé de dessiner les logos de leur société. Et alors, les deux... Enfin, le principal que j'ai dessiné, qui est toujours, je suis étonné qu'il soit toujours d'actualité, c'est celui que j'ai dessiné pour la société Eramet, qui est une grande société minière et en particulier spécialisée dans la fabrication du nickel, la société Eramet. Et le second, pour la société Eramet, j'ai employé comme typo, je me suis basé sur une police qui s'appelle le Rockwell, qui est une police de caractère très solide, très dur, parce que l'art de la typographie, c'est d'utiliser le caractère qui convient au produit que l'on veut mettre en valeur. Alors on n'utilise pas la même typo pour vendre du matériel de terrassement que pour la typographie d'un fleuriste, par exemple. Hein, il y a un monde. Et le second logo qui dure toujours actuellement, c'est celui de la société INEA, qui est une société immobilière et pour laquelle j'ai utilisé, si mes souvenirs sont bons, un caractère très distingué qui s'appelle l'Optima.
Qu'avez-vous éprouvé alors ? Avez-vous le sentiment de revenir à d'anciennes amours ?
Bon, anciennes amours, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression de renouer avec une passion qui ne m'a jamais quittée. En réalité, je la pratique, et je la pratique en rendant service, et ça m'amuse, à petite dose.
Cassandre aimait à dire qu'il s'était tourné vers l'industrie, car il espérait y trouver cette vie qu'il ne pouvait plus rencontrer, je le cite, dans le cimetière des marchands de tableaux. Qu'avez-vous éprouvé vous-même en vous tournant vers l'industrie, en réalisant des logos en fait, pour de grands groupes industriels comme ceux-ci ?
Ah, c'est une sorte de défi, mais ça me passionne. J'ai toujours été... Vous savez, j'ai passé mon enfance dans le Nord, et en particulier la guerre, et je dois dire que l'un des spectacles les plus... à la fois le plus effrayant, mais le plus fascinant pour un gosse, c'était de voir les engins militaires, que ce soit les tanks. J'étais pendant 4 ans occupée par les troupes allemandes, les meilleures troupes allemandes qui étaient dans le nord en attendant le débarquement anglais, persuadées qu'ils débarqueraient dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique. Et donc j'étais fasciné. Malgré moi, hein, je n'étais pas collaborateur, je ne pouvais pas l'être avec mon père amputé, non. Mais, et alors, fasciné également par les avions, les milliers d'avions que je voyais passer, qui partaient bombarder ou la France, ou l'Allemagne, etc., en rang serré. Pour un enfant, c'était un spectacle. On ne pouvait pas y couper, on ne pouvait pas y échapper. Et alors, donc, la technologie m'a toujours frappé. Non pas qu'elle me concerne hein, par moment, mais que voulez-vous, elle nous écrase par moment.
Et que pensez-vous de cette expression très dure de Cassandre qui semblait écrasée quelque part, lui aussi, mais de l'autre côté, qui parlait de ce cimetière des marchands de tableaux ?
Oui, je ne connaissais pas cette phrase de Cassandre, mais au fond, elle résume bien son état d'esprit. Elle est terrible. Cassandre, au fond, finalement, aurait aimé avoir une vocation de peintre beaucoup plus que d'affichiste. Il a aimé cette passion de l'affiche, mais c'était ce que l'on appelle entre nous un peintre rentré. Il n'a pas connu, il a eu une gloire tellement internationale au travers de ses affiches qu'il n'a pas eu du tout la même gloire. Il a dessiné de remarquables décors de théâtre, mais il n'a pas eu la même gloire internationale avec sa peinture, qui n'a pas été reconnue.
Cela explique, à votre avis, sa fin tragique ?
J'en suis persuadé, tout à fait. Ça explique en partie son suicide, oui, certainement.
Donc nous l'avons vu, vous-même passionné de typographie, vous n'y avez pourtant pas eu recours dans votre travail de peintre. Et pourtant, quel lien, quel pont pouvez-vous établir entre votre œuvre picturale et cette discipline que vous avez expérimentée aussi, mais par ailleurs ?
Ah, je n'ai pas utilisé la typographie, mais j'ai peut-être utilisé au travers de ma peinture et de mon travail, que ce soit la sculpture, que ce soit les médailles ou les décors pour la manufacture de Sèvres, il se trouve que j'emploie cette même rigueur, cette soif de netteté, de précision. Ça peut être une qualité, ça peut être aussi un immense défaut, mais bon, je suis né comme ça et c'est ma manière de m'exprimer. Alors c'est le seul parallélisme, je pense, que l'on pourrait trouver entre la typographie, qui est un métier, Dieu sait, de rigueur, de patience. Créer une police de caractère, ça prend parfois des années. Hein. Alors il faut une patience folle et une rigueur absolue.
Avez-vous le sentiment que la typographie est un champ de création toujours bien vivant aujourd'hui ?
Ah oui, absolument, ça n'arrête pas. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de créateurs de police de caractère depuis le début du XXe siècle.
Je pense notamment à Jean-Baptiste Levé, qui a accordé un entretien dans la lettre de l'Académie des Beaux-Arts consacrée à la typographie et qui a créé une police de caractère très belle qui s'appelle le Fournier ODP. Elle a été créée pour l'Orchestre de Paris récemment. Et son nom est inspiré du graveur et fondeur de caractère Pierre-Simon Fournier, dit le Jeune, lui-même connu pour ses fontes musicales. Alors, j'aimerais vous citer justement Pierre-Simon Fournier, dit le Jeune. « Après les choses qui sont de première nécessité pour la vie, rien n'est plus précieux que les livres. L'art typographique qui les produit rend des services importants et procure des secours infinis à la société. » Il sert à instruire le citoyen, à étendre le progrès des sciences et des arts, à nourrir et cultiver l'esprit et à élever l'âme. Son devoir est d'être le commissionnaire et l'interprète général de la sagesse et de la vérité, En un mot, c'est le peintre de l'esprit. On pourrait donc l'appeler par excellence l'art des arts et la science des sciences. Qu'en pensez-vous, Yves Milquant ?
Ah ben je pense que c'est magnifique, ce texte est magnifique et alors absolument toujours d'actualité. Rien n'est changé. Un créateur actuel, ce texte convient tout à fait à un créateur, à un graphiste actuel. Non, il n'a pas pris une ride.
Yves Milquant, merci infiniment de votre intervention sur notre antenne. Merci aussi à tous les auditeurs de leur attention fidèle et à très bientôt sur Canal Académie. Thank you.